Oui.
Une grève à la une de l'actualité, on va parler de ses conséquences sur l'aérien, mais on ira aussi en mer, voir un bateau et des coraux, et puis on parlera de films et de diplômes en fin d'édition. Le journal de la mi-journée, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
On commence bien sûr par l'actualité sociale avec du remous devant la présidence.
Et oui, c'est là que la frappe a installé son piquet depuis ce matin et le début de sa grève illimitée qui touche toute la fonction publique territoriale. Vous le savez, le syndicat, désormais majoritaire chez les fonctionnaires du pays, a mis sa menace à exécution avec ce mouvement auquel s'est greffé le SFP. Sur la table, 18 revendications et une qui coince plus que les autres, la revalorisation du point d'indice qui détermine la rémunération des fonctionnaires. La frappe veut 40% de plus, soit 11 milliards de francs pour le budget du pays. Impossible, avait répondu Moeté Brotherson mardi soir. Depuis, les positions sont figées. Les militants ne se sont pas rendus à la rencontre organisée hier soir. Celle de ce matin ne s'est pas tenue non plus. Les deux parties se rejetant la faute et l'accusant, s'accusant mutuellement de refuser le dialogue. On écoute côté syndicaliste le secrétaire général adjoint de la frappe, Gérard Barf.
Mardi, il y a eu un point bloquant. Et on t'a dit que si tu veux qu'on revienne, que ça soit mardi, jeudi ou aujourd'hui, on discute du point d'indice. C'est tout. Et on revient à la table. Ça veut pas dire qu'on veut pas revenir à la table. Mais si c'est pour venir, pour nous dire niet, comme il nous a dit deux fois, c'est moi qui ai posé la question. Monsieur le Président, vous êtes figé sur 1600, ce qu'on a actuellement? Il a dit oui. Je repose la question. Oui, ben on n'a pas à être là. C'est le point bloquant. C'est le point le plus important qu'on a, la cherté de la vie.
Voilà, Gérard Barf qui est aussi chef de file du syndicat des pompiers d'aérodrome et qui donne tout le poids à ce mouvement en bloquant les vols vers les îles, on va en reparler. Du côté de la présidence, on répète que la discussion sur les salaires n'a pas lieu d'être en cette fin d'année et on refuse de céder au chantage de la frappe.
Ça ne s'appelle pas un dialogue, ça s'appelle un chantage. Ils entendent ce qu'ils veulent entendre. Ce que nous avons dit de manière très précise, c'est que la discussion sur le point d'indice, elle est prévue depuis l'an dernier, en mars, mars-avril, après la clôture des comptes administratifs pour savoir exactement quelle est la situation économique et financière. Je suis assez déçu du comportement de la frappe qui se comporte comme des enfants gâtés.
Voilà, et je vous le disais tout à l'heure, un autre syndicat moins représentatif que la frappe s'est joint en mouvement en déposant son propre préavis. Il s'agit du SFP, dirigé par Olivier Champion, dont la grève ne commencera officiellement que mardi, mais dont certains militants étaient déjà présents sur le piquet ce matin. Ils avaient même participé, contrairement à la frappe, à des discussions hier à la présidence. Mais contrairement à ce que le gouvernement a laissé entendre dans la soirée, rien n'a été signé. Écoutez.
C'est des choses qui sont transversales, qui touchent à la fois la rémunération, les indemnités, les conditions de reprise d'ancienneté, les conditions de classement des, notamment des assistants sociaux, des infirmiers dans les nouveaux cadres d'emploi. Hier, c'était le premier jour et on a eu cette discussion uniquement sur ces points. C'était purement technique. Les conversations étaient cordiales avec l'ensemble des équipes du président. Mais il est clair qu'il n'y a rien, il n'y a pas de projet qui a été rédigé pour le moment et il n'y a rien qui a été signé.
Voilà, Christophe Psychogios, le secrétaire général adjoint du SFP, a noté qu'une invitation a été lancée par la présidence pour une réunion de négociation ce midi. Aux dernières nouvelles, la frappe n'avait pas passé la grille pour reprendre les discussions avec le gouvernement.
Et pendant ce temps, les passagers prennent leur mal en patience.
Mais oui, car comme je vous le disais tout à l'heure, le premier impact de ce mouvement, c'est le blocage des vols vers 43 aérodromes du Fénois. Tous ceux qui sont gérés par la direction de l'aviation civile, au contraire de Tahiti, Bora Bora, Rangiroa et Raiatea, qui ont été confiés à ADT. Ce matin, Air Tahiti a confirmé qu'elle n'était pas en mesure de voler vers les autres îles. Près de 70 vols annulés, 1200 passagers bloqués à Tahiti ou dans les archipels, y compris des touristes. Deux exceptions toutefois, des vols vers Ahé et Tubuai ont pu être reprogrammés dans la journée. Pour le reste, il faudra s'armer de patience. La frappe et son syndicat des pompiers d'aéroport savent que c'est ce blocage qui va peser sur les négociations. La réglementation prévoit un service minimum, mais il est restreint à 2 vols par semaine et il ne commencera pas avant lundi. A noter aussi que Air Moana est touchée par ce mouvement, même si elle ne s'est pas exprimé sur le conflit. Si la grève dure, ses vols vers Moorea et les Marquises seront eux aussi annulés.
Des passagers, il y en a aussi sur des bateaux et celui-là va se refaire une beauté.
Ouais, celui-là, c'est le Paul Gauguin. Le navire de croisière va faire escale à Singapour début février. Il va y rester 7 semaines pour une petite cure de jouvence. Son restaurant va notamment faire l'objet d'un relooking complet. L'espace piscine sera aussi rénové avec une réfection du deck et l'agrandissement du bar. Le navire appartenant à la société du Ponant accueillera également 8 nouvelles cabines communicantes sur le pont. Enfin, différentes moquettes, tapisseries et boiseries seront changées ou restaurées. D'après la compagnie, la rénovation permettra au bateau de réduire son impact sur l'environnement. Un nouveau système de traitement de l'eau de mer sera par exemple installé pour produire de l'eau douce à bord. Le Paul Gauguin sera aussi équipé d'un broyeur de verre et de carton. Après cette escale technique, le bateau reviendra, mais pas tout de suite, dans nos eaux. Pour rentabiliser son retour, il parcourra 2 circuits inédits, l'un en Indonésie, l'autre en Mélanésie, avant de reprendre ses croisières au Fénois à partir de la mi-mai.
Un mot sur cette recherche en cours aux Marquises.
Oui, le JRCC mène depuis ce matin une opération de recherche et de sauvetage à Tahuata. Le skipper d'un trimaran n'a pas regagné la côte après l'échouement de son bateau sur la côte est de l'île. Si ses deux passagers sont sains et saufs, le capitaine n'a pas été revu après s'être dirigé à l'intérieur de la coque à la suite du talonnage. C'est ce que précise le Haut Commissariat dans un communiqué. Le dispositif de recherche en surface comprend une vedette du RSMA avec des gendarmes et des pompiers à bord. Ils ont reçu le soutien de pêcheurs locaux.
Toujours côté mer, une bonne nouvelle pour les habitants des Tuamotu de l'Ouest.
Oui, des habitants qui pourraient avoir le droit à une desserte régulière de ferry. C'est le Vaiarei qui s'intéresse à cette option. Le bateau jaune de 70 mètres navigue aujourd'hui vers Moorea, mais aussi régulièrement vers les îles sous le vent. L'idée serait de réorienter ces longs voyages vers Angiroa, Fakarava, Tikeo, Mataiva et même peut-être Makatea. Les contacts ont été pris avec les Tavana, forcément très intéressés par le projet. Reste maintenant à concrétiser. On écoute Tino Fashingchong, le gérant de la société et capitaine du Vaiarei.
On est en train de voir par rapport à les distances et puis le temps, c'est plutôt le temps passé par le passager à terre. C'est ça qui est le plus important. Tu ne vas pas faire 6 heures de voyage et 2 heures dans un moto. Et voilà. Il faut penser à tout ça. Et ça, on a des prérogatives là-dessus et puis on veut tenir ce défi-là.
Voilà le capitaine du Vaiarei qui se donne tout le premier trimestre 2025 pour parfaire ses plans et convaincre les autorités de lui accorder des autorisations. Un premier circuit dans ces îles au fort potentiel touristique est prévu pour les vacances scolaires de Pâques entre le 31 mars et le 13 avril prochain.
Mais d'ici là, les amoureux de la mer pourront aussi mettre la tête sous l'eau.
Avec ce projet de science participative lancé par l'association Tamano Toteiroto, on vous avait parlé de ce projet Connected by the Reef qui cherchait à organiser une observation planétaire de la ponte des politesses russes le 18 janvier. Et bien pour aider les participants en Polynésie comme ailleurs, une appli vient d'être lancée, elle est gratuite et elle permettra aux plongeurs professionnels ou amateurs de transmettre en temps réel des données d'observation. L'application ne se limite ni à cette journée ni aux coraux, l'idée est de permettre de faire de la science participative sur beaucoup d'autres espèces, de poissons, de bénitiers, de rolis, d'oursins et autres animaux marins. Une façon pour l'association et son fondateur Vete Aliao d'organiser une réponse citoyenne au changement climatique et aux risques qui pèsent sur les milieux marins.
On parle de cette cérémonie avec beaucoup d'Iliens ce matin.
Oui, des soignants des îles, infirmiers ou médecins qui étaient réunis à la présidence pour recevoir leur diplôme universitaire d'urgence. Il s'agit de la première promotion polynésienne pour ce nouveau DU, développé en partenariat avec l'université de Bordeaux. 8 professionnels de santé installés à Wapo, Taha, au Tuamotu ou à Moorea, entre autres, avaient participé à cette formation de 8 semaines destinée à renforcer leurs compétences en matière de prise en charge des urgences. Parmi eux, nous avons croisé Teata, 26 ans, qui est infirmière depuis déjà plus de 5 ans à l'IMATA. Les cas d'urgence, elle les a toujours craints. Le passage de ce DU encadré par des spécialistes de la médecine en milieu insulaire lui a donné confiance dans son action. Écoutez.
Ça m'a permis déjà de comprendre que tous mes collègues vivaient la même chose que moi dans les autres îles. Concrètement, là, je suis retournée sur mon île. J'ai eu un arrêt cardiaque, j'ai eu un choc septique, un choc anaphylactique. Des thèmes un peu compliqués, mais j'ai pu réagir un peu plus rapidement et puis mettre en place une prise en charge. Et puis, moi, appréhender aussi des situations d'urgence et du coup voilà, être plus prête à prendre en charge une urgence.
Teata, infirmière des Australes, qui est donc une des 8 diplômées de ce matin. La formation théorique et pratique a amené tous ces diplômés aux urgences, au SAMU ou aux maternités, où ils ont pu travailler sur plusieurs pathologies et accidents. On parle notamment de défaillances cardiovasculaires, respiratoires et neurologiques.
Et puis on finit par un mot de culture avec le FIFO.
Le Festival International du Film Documentaire Océanien, qui prépare sa 22e édition, et il n'est pas question de changer sa recette qui marche bien. Un jury professionnel d'abord qui sera présidé par l'auteur et réalisateur franco-algérien Ben Salama cette année. Il sera accompagné de l'australienne Rachel Perkins, du calédonien Nune Luepak ou le néo-zélandais Toa Fraser. Le FIVO, c'est aussi bien sûr une sélection hétéroclite qui explore les traditions, les langues, les combats et les modes de vie d'Océanie. 10 films en compétition cette année, 18 autres hors compétition, sans compter la dizaine de courts-métrages. Tous seront visibles par le public en salle et en ligne. Ce sera entre le 31 janvier et le 9 février. Voilà, c'est la fin de ce flash. Il est midi 10, presque pile. Je vous dis à plus tard, et notamment à 16h pour le flash de la rédaction.
Merci Charlie pour ce journal. Maintenant, c'est votre météo sur Radio.